1629, année funeste, ayant eu grande peste. Voilà ce qu'on peut lire au beau milieu de la page de garde du registre des actes notariés de 1629, rédigé par Barthélemy Prat-Bernou, notaire royal de Saint-Antonin-en-Rouergue. Je salue ici les descendants probables de cette famille Prat-Bernou qui s'écrivait, dont le nom s'écrivait en orthographe occitane, Prat-Bernon. N'est-ce pas, messieurs les Prat-Bernon ou Prat-Bernou aujourd'hui de Servanac, vous avez des ancêtres illustres. Cette année-là donc, 1629, succédant au malheur et à la désolation de la guerre, la peste s'abat sur notre ville et toute la commune. Les nombreux documents que l'on peut glaner dans les archives, soit dans les comptes consulaires dont nous parlons souvent, soit dans les registres de délibération, et cette fois, essentiellement et surtout, dans les registres notariés, autorisent à penser que l'épidémie de 1629 fut une des plus fortes et sans aucun doute des plus meurtrières de l'histoire de notre ville. On doit savoir que depuis le XIVe siècle, époque de l'apparition de la peste, cette maladie n'avait jamais cessé de frapper, ici et là, sinon tous les ans, du moins à intervalles très rapprochés. Elle faisait partie de ces fléaux auxquels les gens de cette époque-là s'habituaient plus ou moins bien, comme les inondations, les orages, la grêle, les sécheresses et les terribles famines. Mais jamais, comme en 1629, l'épidémie n'avait soulevé une pareille émotion, si l'on en croit nos archives.
Madame Julien, Monsieur Julien, bonjour.
Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Madame Julien, quelle illustration musicale avez-vous choisie pour traduire le désarroi de la population saint-antoninoise devant l'arrivée de la peste?
Je ne connais pas de musique plus poignante que le Requiem de Mozart, dont quelques extraits ont déjà été choisis pour illustrer les épidémies de peste du Moyen-Âge. C'est pourquoi j'ai encore une fois demandé à ce même Requiem de nous apporter ces accents de deuil et de détresse. Certes, l'homme du XVIIe siècle lutte de tous ses moyens contre le fléau, mais ses moyens sont misérables. À ceux qui croient en Dieu, il ne reste que la prière avec l'espoir d'une autre vie. Seigneur, donnez-leur le repos éternel et faites luire pour eux la lumière sans déclin. Ce sont ces paroles qui sont chantées dans la première partie du Requiem.
Monsieur Julien, vous nous disiez que les archives nous montraient comment réagissaient les Saint-Antoninois quand la peste faisait son apparition dans la région.
Relisons ensemble ces documents qui sont des témoignages vécus de nos compatriotes de cette époque. C'est à la réunion du Conseil de ville du 17 mars 1628 que la première alerte est donnée par le consul de Gachon qui annonce que le bruit est que la contagion est à Figeac et à Cajar et autres lieux circonvoisins, à quoi on doit prendre garde. Alors, le syndic Prat-Bernou, le notaire justement dont j'ai parlé plus haut, chargé comme tel de défendre les intérêts des habitants de la communauté, je cite, requiert qu'attendu que ce bruit est très certain, on doit députer des personnes aux portes pour prendre garde à ceux qui voudraient entrer, et notamment aux voituriers. Aussi qu'on doit faire commandement à tous les habitants qui ont des pourceaux de les sortir hors la ville, et aussi de faire nettoyer les rues et autres lieux où il y a immondices. L'émotion générale de tout le monde est bien marquée dans ce long, très long procès-verbal du conseil de ville qui relate les débats d'une réunion très animée à laquelle participaient justement de très nombreux habitants. Chacun donne son avis, propose des mesures précises, placer des personnes sur les avenues pour empêcher que personne qui viendrait des lieux suspects n'entre dans la ville. Un autre, qu'il soit fait inhibition à tous les hospitaliers de ne recevoir aucun pauvre sans la permission des consuls. Vous entendez hospitaliers, les responsables de l'hôpital qui accueille les pauvres. Un autre propose qu'il soit fait inhibition aux goratiers de ne faire aucun commerce avec les étrangers sans permission des consuls, autrement qu'ils seront fermés dans leur maison. Les goratiers, c'étaient les revendeurs qui achetaient, en gros, aux marchands venus d'ailleurs et qui revendaient à l'intérieur de la ville. Un autre participant propose d'inhiber, c'est-à-dire de défendre, aux hôtes, c'est-à-dire aux aubergistes, à peine de 30 livres d'amende, de ne recevoir aucun étranger sans la permission des consuls. Enfin d'autres, qu'il faut advertir les bateliers de Salette et de Fénérol de prendre garde, de ne laisser passer aucune personne suspecte. Toutes ces propositions sont adoptées d'enthousiasme, si l'on peut dire, et il est enjoint aux habitants d'enlever immédiatement les fumiers de devant leur maison dans 3 jours au plus.
Quand vous nous aviez décrit la peste du Moyen-Âge, vous nous aviez montré que la seule méthode qu'avaient trouvé les habitants pour s'en préserver était d'implorer Dieu par des prières, des messes, des processions. On voit là que les moyens de lutte contre la peste sont devenus tout à fait différents.
Tout à fait différents, et cela marque bien l'évolution des esprits et le changement de civilisation. À aucun moment, il ne sera question officiellement d'implorer Dieu, ni le Dieu des catholiques, ni l'Éternel des protestants. On n'en parle jamais. Mais on prend des mesures concrètes, vous l'avez vu, qui peuvent se résumer à 3 essentiellement. Mesures de non-contagion, de non-contact, pas de contact avec des étrangers, sauf s'ils sont en mesure de présenter un passeport certifiant qu'ils viennent d'un lieu exempt de maladie. Et l'on ne pouvait voyager à ces époques de peste que muni de ce passeport. Et nos archives, heureusement, miraculeusement, conservent ainsi 6 passeports de personnes qui ont pu voyager en période de peste. Les deuxièmes mesures, c'était des mesures de salubrité, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire nettoyage des rues, des fumiers, chasser les pourceaux, tout ce qui occasionne des pourritures et des fermentations. Déjà, vous voyez, on avait le sens de l'hygiène, que s'il y avait de l'hygiène, peut-être la peste serait moins meurtrière. Enfin et surtout, des mesures de surveillance strictes, des gardes renforcés aux portes et sur les murailles, et assignation à résidence pour quiconque aura pu avoir contact avec des étrangers.
Oui, vous nous disiez, M. Julien, vous nous parliez des passeports. Il y avait donc des villes qui étaient atteintes de la peste et d'autres non.
Et voilà, ce qui est étrange, c'est que la peste ne s'abattait pas sur la France entière au même moment. Nous avons vu que c'est en 1628 qu'elle était à Figeac, qu'elle était à Cajarc, qu'elle viendra à Villefranche, qu'elle atteindra Lozère, Témoissac, et qu'elle n'atteindra Saint-Antonin qu'en 1629, Caussade, Casal en 1630. Donc, déjà dans l'esprit des gens se révèle ce phénomène de la contagion. Elle ne vient pas brutalement, elle est là en un point, et on essaie donc, dans les villes où on n'est pas encore atteint, d'éviter cette contagion. C'est déjà un très grand progrès médical, ça me semble-t-il.
Oui, on ne pouvait donc circuler qu'en venant de villes qui n'étaient pas atteintes
de... Qui étaient immunes de peste, n'est-ce pas? Et avec les certificats qu'ils portaient, ils viennent de cette ville où, grâce à Dieu, il n'y a pas la maladie contagieuse.
Vous nous disiez que, officiellement, Dieu avait disparu de la lutte contre la peste. Est-ce qu'on peut penser quand même que l'imploration de Dieu a complètement disparu pour les habitants de Saint-Honoré?
Officiellement, oui. À aucun moment, dans les conseils de ville, et ils se sont tenus, à partir de 1628 jusqu'à 1630, sous le danger, la menace ou l'attaque de la peste, à aucun moment, on ne voit le conseil de ville décider d'aller au temple ou d'aller à l'église pour célébrer une messe rédemptrice. Donc, on ne croit plus aux processions et aux invocations publiques. Mais il faudrait être sot pour ne pas penser que chacun, individuellement, se sentant menacé et voyant l'incapacité qu'il y a à se défendre de la peste, essaie par tous les moyens de s'en protéger. Et il n'est pas douteux qu'à cette époque-là, il y a eu dans les familles des sortes de réunion familiale où l'on a imploré Dieu pour les catholiques ou l'Éternel pour les protestants afin qu'il nous soit miséricordieux. Ça, ce n'est pas douteux. Mais le côté officiel, le côté religieux officiel a disparu complètement. Ça, c'est un changement considérable et qui est très perceptible.
Oui. Et est-ce qu'on peut savoir la différence de comportement des catholiques et des protestants dans ce domaine-là? Dans la peur de voir arriver la peste.
Ça, nous ne le savons pas. Je pense que là, il faudrait être un peu osé aussi pour parler d'un comportement collectif. Je pense que devant un danger, les gens réagissent individuellement. Ils sont seuls devant le danger. Et chacun, suivant sa force de caractère, suivant la force de sa foi, suivant son optimisme ou son pessimisme, a une attitude différente. Il y a certainement ceux qui perdaient la tête complètement, et puis il y a ceux qui, comme aujourd'hui, essaieraient de trouver une solution à ce problème, et puis il y a les résignés, les fatalistes, ceux qui ne font rien parce qu'il n'y a rien à faire. La peste rôde toujours dans les lieux circonvoisins. À Figeac, nous l'avons dit, mais maintenant à Cahors, à Villefranche, à Lozère, à Moissac, à Toulouse, à Castelnau-Montmirail. Et l'on adopte de nouvelles mesures. Le 3 juin 1628, les consuls siègent dans l'auditoire de la justice pour prendre des mesures de police. Il est interdit tout commerce de cuir et de peau à cause de la contagion. Le 9 juillet, et pour la même raison, le commerce du sel est interdit avec le Rouergue. Tout habitant de Saint-Antonin qui reviendra d'un lieu infect ne pourra rentrer en ville qu'après avoir observé la quarantaine. Voilà la mesure sévère, draconienne. Et les Saint-Antoninois qui avaient eu le malheur de quitter la ville avant cette mesure ne pourront plus rentrer en ville. Ils devront rester dans la campagne. Et pour certains, ce sera une situation extrêmement désagréable, sinon dramatique. L'alarme est très grande en cet été 1628 à cause de la maladie toujours menaçante et aussi de l'insurrection de Montauban et de Caussade contre le roi dont nous avons déjà parlé. L'automne arrive et la peste se maintient à Villefranche. En raison de quoi on décide qu'on n'y présentera plus aucun procès devant le sénéchal. Les relations sont coupées avec Villefranche. Et l'on fait bonne garde aux portes. Et l'on décide, en raison des circonstances, que le conseil ordinaire, c'est-à-dire ce conseil qui regroupe les consuls et les 24 conseillers de ville, se réunira deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Le mardi 19 décembre 1628, on annonce qu'un étranger, un nommé Jacques Matras, venant de Millard, a refusé de retourner d'où il venait et qu'il se précipiterait plutôt dans la rivière. Alors on l'enferme dans un four pour la nuit à Peyregrosse, du côté, sur la route de Salette, là, du côté de Montrital. Il y avait là des briqueteries. On l'enferme dans un four de briqueterie, qui n'était pas allumé sans doute. Et il est ordonné qu'on le fera reconduire par deux hommes hors de la juridiction. Et alors, ce qui est terrible, voici ce qu'on ajoute. Et au cas, nous voudrons aller, qu'il y sera contraint par la rigueur, voire plutôt le faire tuer. C'est dire à quel point on a peur de la peste. Au cas où cet homme serait contagieux, on le tuera, mais il n'entrera pas en ville. Et quant à celui qui l'accompagnait depuis Fénérolles, attendu qu'il est entré dans la ville et a déjà fréquenté plusieurs, qu'on lui fera brûler dans sa maison ses habits et qu'il en prendra d'autres sans en faire bruit, c'est-à-dire sans parler à personne, sans aller raconter qu'on lui a permis ça, sinon ce serait l'affolement dans la ville. 1er mars 1629, la peste redouble de violence ailleurs. Et on apprend qu'à Villefranche, depuis peu de jours, y sont mortes des personnes de la maladie contagieuse. Alors la garde est renforcée et tout voyage est rigoureusement interdit vers Villefranche. On l'avait déjà décidé, mais comme il n'y avait pas de menace précise, des gens y étaient repartis. Alors on renouvelle l'interdiction et le printemps revient. Et les catholiques, en conseil de ville, rendent grâce à Dieu du succès des armées du roi qui viennent de triompher des protestants. Les protestants ne peuvent faire autre chose que d'être du même avis, et ils grandent grâce à Dieu du succès des armées du roi. On oublie pour un temps la maladie. Les affaires financières et militaires dans lesquelles on se débat occupent toutes les réunions du conseil de ville quand brusquement, le 18 juillet 1629, alors que personne ne s'y attend, on annonce qu'un nommé Couffin est mort. Traité par messieurs Causse, médecin, Jean, garde, apothicaire, et Esclose, chirurgien. Et on décide que les discieurs sont priés de vouloir dire en conscience ce qu'il en est de la maladie contagieuse qui continue en divers lieux et du remède à y apporter. On a peur. En attendant, on bannit à nouveau les porcs et les chèvres hors la ville. On fait nettoyer les rues et on rétablit aux portes et aux remparts ou aux murailles la garde bourgeoise. Que la fille de David Philippi marchand est morte. Et le bruit court dans la population qu'elle est morte de la maladie. C'est l'affolement dans le conseil. Le médecin Causse, invité immédiatement à donner son avis, répond : avoir vu ce matin la dite fille à laquelle il n'a reconnu aucun accident ni marque qui approche de la dite maladie. Toutefois, ajoute-t-il, à cause de l'importance de la dite maladie et des inconvénients d'Issel, on ne sait jamais. Il conviendrait d'inviter le dit Philippi à se retirer hors la ville et de faire désirer sa maison, mais que cependant, par mesure d'humanité, il demande qu'on laisse dans sa maison sa femme, à cause, dit-il, que n'est accouchée, mais sans communiquer avec les autres habitants. Quelle mesure terrible. Donc, la décision est prise que Philippi sera chassé de sa maison. Après avoir pris l'avis de chacun des participants, où il y a à nouveau une très longue discussion, chacun propose, le conseil d'une commune voix décide que, et je cite, « pour éviter des inconvénients dangereux, que le dit Philippi sera exhorté de faire retirer sa mère et enfant à sa métairie, ensemble sa femme, c'est-à-dire aussi sa femme, si est en état de pouvoir marcher à pied ou à cheval. Et en cas elle ne pourrait, qu'ils demeureront dans ladite maison sans communiquer avec aucun, et qu'il leur sera administré le nécessaire par des personnes qui seront choisies par les seigneurs consuls. Néanmoins, le dit Philippi enterrera le corps sur la nuit, le corps de sa fille, et on lui fera faire le creux profond extraordinairement. Il n'y a pas de doute, la peste est là. La famille Philippi est séquestrée dans sa maison. Mais cette mesure s'avère insuffisante car dès le lendemain, 1er août, le conseil est à nouveau convoqué pour apprendre que la maladie contagieuse est dans la maison de David Philippi marchand. Un enfant lui est en mort ce matin et la chambrière atteinte, la servante. Ça fait déjà 3. La réunion du conseil est ce jour-là agitée. On sent la peur dicter les propos des uns et des autres. Chacun, comme toujours, étant invité à donner son opinion car l'affaire est grave. Et l'on décide de prendre les mesures qui s'imposent. C'est un plan de bataille qui est dressé pour essayer de lutter contre le fléau mortel qui menace la communauté. On expulse Philippi et le restant de sa famille, et le texte précise qu'ils seront tirés hors la ville et conduits à Bonn, comme jugé le lieu le plus propre auquel les consuls feront administrer les choses nécessaires. On engage sur le champ Jean Ramon et Louis Campagnol pour désherber la maison du dit Philippi et servir la ville pendant un mois. Ce sont les parfumeurs préposés à la désinfection. Et là, j'ouvre une parenthèse pour demander à l'un des auditeurs s'il y en a qui connaissent ce mot « désherbé ». Il est très souvent employé et je n'en connais pas exactement le sens. Je pense qu'il s'agit d'une maison condamnée définitivement parce qu'elle a été infectée de peste et elle doit être hermétiquement close, parce que on emploie à la fois les deux mots désiré et parfumé. Alors, si l'un de vous était beaucoup mieux informé que moi et qu'il ait la gentillesse d'éclairer ma science pour ce terme justement, désiré, ça s'écrit D-E-S-H-E-R-E-R. Donc voilà deux parfumeurs engagés pour la désinfection. Ils brûleront les vêtements et les linges qui auront été en contact avec les malades. Ils lessiveront les linges qui n'auront pas été en contact, les planchers, les parquets, les carrelages, puis ils désinfecteront la maison en faisant brûler du genièvre, du soufre, en lessivant meubles et objets au vinaigre. Puis la maison sera close et interdite à quiconque. C'était là une tâche dangereuse, on le comprend, qui justifie le salaire énorme pour l'époque consenti aux parfumeurs. 50 livres pour un mois chacun, et en plus on leur fournit les médicaments nécessaires, et en plus on leur fournit la nourriture. On engage en outre deux courbiots, des corbeaux, Marc Bosque et Jean Marchandal, eux aussi pour un mois, au salaire de 40 livres. Ce sont les fossoyeurs. Les uns et les autres de ces préposés seront entretenus, comme je l'ai dit, aux frais de la communauté, quand, leur tâche accomplie, ils feront leur quarantaine, parce que lorsque la peste sera finie, il faudra qu'ils fassent aussi leur quarantaine, dans un lieu propre et écarté, dit-on, qui leur sera désigné soit à Saint-Bernard, soit à Bonne. Enfin, on nomme un conseil de santé, chargé de conseiller les consuls dans la lutte contre la maladie. Mais très vite, c'est ce conseil de santé qui dirigera seul les affaires. Les consuls, ayant jugé plus prudent de prendre le large devant le danger, du moins la plupart. Ce conseil de santé comprenait messieurs de Sahuc, Gibilly, Boissière, Prat-Bernou, Mordagne, Villeneuve, Cavagnac, outre les médecins, apothicaires et chirurgiens déjà cités. C'est le dernier conseil de ville tenu dans la maison commune. Les procès-verbaux de réunion ne figureront plus désormais au registre. Tout se passe comme s'il y avait vacance du pouvoir, mort en quelque sorte de la vie commune, jusqu'à ce dimanche 12 mai 1630, date à laquelle se tient à nouveau une réunion au consulat. Que s'est-il passé entre-temps ?